10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravi de vous retrouver en cette fin de semaine jusqu'à 16h, comme chaque jour, pendant une heure. Je suis accompagné de ma camarade Ombline, comment allez-vous?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous parlons de vous, de vos expériences, qu'elles soient joyeuses ou difficiles, car votre vécu nous intéresse. Arrêter d'accumuler et désencombrer son intérieur du matériel superflu pour ne plus garder que l'essentiel. Pour les personnes qui en sont adeptes, le minimalisme est un mode de consommation durable qui vise à s'affranchir du matraquage publicitaire de notre société de surconsommation, tout en interrogeant l'utilité de chaque bien que l'on possède. C'est aussi une philosophie qui invite à se détacher des relations humaines qui apportent peu et qui sont nocives. Qu'il s'applique à la maison ou au bureau, le minimalisme est une tendance ancrée dans notre époque, puisqu'il encourage à tirer parti des ressources numériques et non plus matérielles. Alors, se sent-on réellement mieux en possédant moins? Comment faire le bon tri dans nos maisons et dans nos vies? Minimalisme, qu'est-ce que c'est? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Chaque jour, on vous écoute au standard Europe 1, 39, 21, 50 centimes la minute, pour nous écrire et partager avec nous vos expériences également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Priscilla. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Priscilla.
Merci, bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 35 ans et je vous appelle depuis la vallée de la Bruche, en Alsace.
D'accord. En 2016, alors que vous étiez chargé de mission en ressources humaines, vous avez fait un burn-out. Vous dites que ça a été l'élément déclencheur d'une vie beaucoup plus simple. Expliquez-moi cela.
Exactement. Alors, en 2016, j'ai fait un burn-out. Alors, ça nous tombe dessus un peu sans attendre. Et en fait, c'est un moment privilégié, violent, certes. Mais à ce moment-là, on se pose beaucoup de questions. Qui suis-je? De quoi ai-je besoin? Est-ce que tout ce qui m'entoure est réellement utile? Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai amorcé ce nouveau mode de vie.
Et avant cette prise de conscience, vous étiez quelqu'un qui consommait plutôt beaucoup?
Oh oui. Vous le disiez très juste en introduction, en fait, on est dicté par la publicité. Nos actions sont dictées par la publicité. Oui. Et j'en faisais partie. Donc oui, dès qu'il y avait une nouvelle mode vestimentaire, j'allais acheter de nouveaux vêtements. J'ai eu tout le catalogue Tupperware moi aussi. Enfin voilà, donc oui, j'ai été addict à la consommation avant de devenir minimaliste.
Alors, à partir de ce déclic que vous avez eu, vous avez décidé de tout vider chez vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé salvateur, libérateur de faire cela?
Oui, complètement. Alors, on dit qu'avant de faire le ménage à l'intérieur de soi, il faut d'abord le faire à l'extérieur. Et en fait, c'est vrai. C'est vraiment ce qui m'a... Enfin, quand j'ai fait mon burn-out, la première chose que j'ai fait, c'est dormir. La deuxième chose que j'ai fait, c'est vider ma maison. Effectivement, les trois quarts de ma maison, ils sont passés. J'ai donné, j'ai jeté, j'ai recyclé, enfin, autant que possible. Et rien ne m'a jamais manqué.
Vous dites que votre mental n'est plus chargé inutilement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Ça veut dire que comme votre maison, en fait, vous vous êtes dégagé de tout ce qui était matériel.
C'est ça. En fait, ce qui nous encombre l'esprit, c'est les objets. Quand un objet tombe en panne, on le garde à l'esprit jusqu'à ce qu'on puisse le faire réparer. Moins vous avez d'objets, moins vous avez de préoccupations mentales en réalité.
Est-ce qu'il y a des objets qui ont une valeur affective pour vous, toujours, des objets souvenirs que vous conservez?
Alors, très curieusement, non. Même les photos ou les souvenirs qu'on peut avoir de nos aïeux, c'est des choses que je ne garde pas. Les photos papier que j'avais pu avoir, j'en ai scanné quelques-unes, mais je n'ai pas de souvenirs physiques, en tout cas de mon enfance ou de ma jeunesse.
Est-ce que le minimalisme, pour vous, Patricia, c'est une tendance qui va de pair avec une démarche écologique aussi?
Oui, complètement. Parce que quand vous consommez moins, fatalement, vous produisez moins de déchets aussi. Donc oui, c'est complètement une démarche écolo, je suis d'accord.
Alors, vous avez deux enfants qui ont 9 et 10 ans. Est-ce que ces deux petits bonhommes, enfin en tout cas non, mais je dis que ce sont des garçons, mais garçons, filles?
J'ai une fille et un garçon,
d'accord.
Marie et Thomas.
Chanceuse. est-ce que Marie et Thomas vous suivent dans vos convictions? À leur âge, on peut être influencé par le marketing et la publicité. Hein. D'ailleurs, les publicitaires ne s'y sont pas trompés. En fait, les enfants sont une cible aujourd'hui.
Oui, alors vous avez raison. Cependant, les enfants apprennent aussi par mimétisme. Donc, bien malgré nous, finalement, ils prennent nos habitudes et nos modes de consommation. Et assez naturellement, c'est des enfants qui ne demandent pas d'ailleurs à acheter de nouveaux objets. Ils se satisfont de ce qu'ils ont. Alors, j'ai la chance d'habiter aussi près de la nature. Donc, c'est des enfants qui vont beaucoup se balader, qui vont faire des cabanes, etc. Un peu à l'ancienne,
oui.
Mais finalement, ils n'en sont pas plus malheureux.
Et est-ce que vous avez l'impression que vos enfants en parlent à leurs amis aussi? aussi? Et est-ce que si oui, est-ce que leurs copains, leurs copines peuvent se révéler sensibles à ce type de démarche?
Alors, je ne sais pas s'ils en parlent à leurs amis. Par contre, j'ai une anecdote liée à mon fils, Thomas, qui a donc 9 ans, qui, quand nous étions au restaurant, la serveuse apporte son soda avec une paille. Oui. Et Thomas a sorti, sorti la paille du soda en expliquant à la serveuse que ça, c'était vraiment superflu et pas utile et qu'en plus, ça pollue la planète. Bah, donc, écoutez, c'est vrai que on est plutôt fiers des valeurs transmises, du coup.
Bon, alors, vous restez en ligne avec nous, Priscilla. Nous allons continuer à parler de votre mode de vie minimaliste, dans le travail également, puisque je crois savoir que vous avez fondé votre micro-entreprise. A tout de suite.
Europe 1. Être minimaliste, autrement dit, peut-être pour vous se simplifier la vie. Vous nous dites quelles sont vos habitudes au 39-21. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Quand notre société nous pousse à consommer toujours plus, d'avoir des choses à la maison, des choses sur soi dont on n'a pas vraiment besoin, vous avez choisi d'être minimaliste, de posséder le moins possible. Venez nous dire comment vous vivez, vous témoignez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Priscilla qui, dans la première partie de cette émission, nous expliquait qu'elle avait eu une réelle prise de conscience par rapport à sa personnalité hyper consommatrice et que après un burn-out, eh bien, le déclic qui avait produit le vide de sa maison, hein, qu'elle s'était délestée de tout ce qui encombrait son intérieur et que finalement le parallèle qu'elle pouvait faire avec son intérieur, eh bien, il en était de même parce qu'elle a commencé à pouvoir s'occuper de sa personne. Est-ce que vous voulez dire par là que vous étiez trop encombré intérieurement pour voir qui vous étiez et vous aimer?
Oui. Alors, je pense qu'effectivement, quand on suit des modes, on oublie qui on est et on devient finalement un robot que la société crée de
conditionne.
Oui, conditionne, en effet. Donc, on oublie qui on est et surtout, on oublie de faire ce qui est important. Depuis que je suis devenue minimaliste, je peux beaucoup plus m'engager dans des projets associatifs ou humanitaires. Ouais. Et ça me semble être plus intéressant et plus important dans la vie que de faire attention à des objets, quelle qu'en soit leur valeur.
Après votre burn-out, vous avez quitté le monde du salariat et vous avez fondé votre micro-entreprise pour partager votre expérience. Le minimalisme, c'est quelque chose qui s'applique dans le travail pour vous ?
Oui, complètement. Alors, je fais partie de cette nouvelle vague des Chief Happiness Officers. Donc, j'ai choisi de créer mon entreprise, effectivement. Et j'accompagne des chefs d'entreprise dans la gestion du personnel et dans l'organisation de leur entreprise d'une manière plus générale.
Oui.
Et le minimalisme est une clé vraiment importante. On peut déceler 4 types de minimalisme différents en entreprise.
Oui.
Vous avez le minimalisme matériel, qui est possible grâce à la digitalisation.
Oui.
Vous avez le minimalisme virtuel, ça vous en avez parlé aussi tout à l'heure, avec les outils numériques qui sont de plus en plus nombreux et performants. Le minimalisme relationnel, créer des partenariats et des relations de qualité au travail.
Oui.
Et enfin, le minimalisme temporel, c'est-à-dire qu'il est temps d'arrêter de faire des réunions qui ne servent à rien d'utiliser le temps de travail en fait, pour mener des projets à bien.
C'est une démarche, le minimalisme, très, très philosophique en même temps qu'elle est... je trouve qu'elle colle bien à votre époque, enfin à notre époque, j'allais dire à notre époque finalement, Priscilla.
Oui, mais je pense qu'on a tous véritablement envie de revenir à l'essentiel et surtout de trouver du sens dans ce que nous faisons. Et le minimalisme permet cela.
Vous dites que l'on peut aujourd'hui compter sur les ressources numériques, hein, comme vous venez de le souligner dans les 4 formes de minimalisme. Ces ressources numériques qui nous aident à posséder moins. Expliquez-moi cela.
Alors, les ressources numériques, par exemple, rien qu'au niveau de l'email déjà,
oui,
vous avez là un outil qui est formidable s'il est bien utilisé, parce que vous avez encore des patrons qui l'utilisent, ou des employés, hein, qui l'utilisent bien trop en envoyant 40 ou 50 mails par jour. Ce n'est pas le but du jeu. Mais grâce à ces outils numériques, vous pouvez retrouver la bonne information, le bon document, beaucoup plus rapidement et les transmettre de la même manière.
Alors, vous parlez aussi du minimalisme relationnel et du minimalisme temporel. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, le minimalisme relationnel, c'est choisir avec soin ses partenaires. Par exemple, quand on est chef d'entreprise, par exemple, il était courant dans l'entreprise dans laquelle je travaillais d'avoir 30 partenaires de recrutement. C'est beaucoup trop. Il vaut mieux privilégier 5 ou 6 partenaires de recrutement, mais travailler avec eux de manière plus étroite, beaucoup plus construite. Ça, c'est le minimalisme au niveau de la relation. Et au niveau du minimalisme temporel, on note aujourd'hui dans les entreprises beaucoup de réunions qui ont lieu du matin au soir. Mais en réalité, les gens parlent, imaginent, mais ne font pas. Et donc, on a ce sentiment dans l'entreprise, finalement, de ne pas servir à grand-chose.
Adopter un mode de vie minimaliste, c'est quelque chose qui permet de faire des économies ?
Ah oui, complètement. Alors, c'est vrai que j'ai changé d'emploi, donc je gagne moins bien ma vie, et pourtant, j'ai jamais autant voyagé. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, l'argent arrive de quelque part, et il est clairement lié aux économies que nous faisons en dépensant moins en futilité.
Vous vous sentez plus heureuse, plus légère aujourd'hui, Priscilla ?
Je me sens plus à ma place et plus en accord avec moi-même. C'est déjà pas mal.
Et est-ce que vous avez fait des adeptes dans votre famille ou justement à travers les entreprises pour lesquelles vous travaillez aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez qu'on adhère finalement juste parce que Priscilla est là et explique que le minimalisme, eh bien, c'est se délester de choses qui nous encombrent la vie ? En fait, il suffit d'y penser. C'est la première marche, non ?
Oui, alors je ne pense pas que c'est grâce à moi, mais c'est par rapport au partage d'expériences. De plus en plus de personnes osent partager une expérience de vie qui est différente de celle des autres ou de celle dictée par la société. Et je pense que la prise de conscience, elle vient surtout par le partage d'expériences des uns et des autres.
Merci Priscilla pour votre partage d'aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1, si précieux, hein, car le minimalisme est une philosophie de vie qui peut nous alléger toutes et tous, hein, puisque je ne sais pas, Ombline, vous, si vous avez beaucoup de choses chez vous, mais moi j'ai fait le vide ce week-end, voyez-vous.
J'ai beaucoup de choses. Ah bah c'est bien.
Oui, bah, notamment les jouets des enfants. Vous vous rendez compte que les jouets des enfants, vous les gardez, il y en a beaucoup.
Il faut les donner en plus.
Dans un instant, nous allons accueillir Emmanuelle Veil, elle est journaliste et cofondatrice du magazine en ligne Le Journal Minimal.
Europe 1. Se débarrasser de superflu, désencombrer son intérieur, comme les jouets d'Olivier Delacroix, comme Priscilla qui nous en parlait un petit peu plus tôt. Vous aussi, vous avez laissé tomber vos vieilles habitudes de consommation, vous êtes devenu minimaliste. Comment avez-vous réussi à franchir le cap ? Vous retrouverez Olivier Delacroix dans un instant et on vous attend au 3921. Vous avez adopté le mode de vie minimaliste, vous avez choisi de moins consommer. On vous écoute au 3921, vous nous écrivez également, réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Emmanuelle Veil, journaliste et cofondatrice du magazine en ligne Le Journal Minimal. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier Delacroix, merci.
Bonjour, je vous en prie. D'abord, comment peut-on définir le minimalisme, Emmanuelle Veil ?
Alors, ce que vous avez dit déjà, philosophie de vie, c'est tout à fait ça.
Oui.
Et ce que Priscilla expliquait aussi, c'est vraiment une philosophie de vie qui consiste à se débarrasser du superflu. Donc ça a été assez bien expliqué, je trouve, par ce témoignage. Et après, en fait, dans l'idée de revenir vraiment à l'essentiel.
Comment cette tendance a-t-elle émergé ? Parce que bien évidemment, de tout temps, je pense que des hommes et des femmes ont pris à un moment de leur vie ce type de décision. Mais là, on sent que cette tendance dans cette société de surconsommation, cette tendance émerge. Depuis combien de temps à peu près ?
Oui, alors on assiste en ce moment à quelque chose. Il se passe quelque chose avec le minimalisme. On peut situer trois phases. En fait, ça démarre dans l'Antiquité avec le philosophe Épicure et aussi le personnage Diogène, qui sont deux personnes très importantes dans l'histoire du minimalisme. Donc Épicure, c'est quelqu'un qui dit « Essayons de chercher à être heureux.
Oui. »
Et pour cela, être heureux, c'est réussir à satisfaire les besoins naturels de l'homme, c'est-à-dire manger, dormir, en fait des choses extrêmement simples. Et c'est l'idée de plaisir. Donc il y a ça. Et ensuite, on a aussi Diogène, qui est un personnage qui se déleste petit à petit de tous ses biens matériels. À un moment, il ne lui reste plus que comme objet une espèce d'écuelle pour boire, et puis il se promène, il voit un enfant qui boit en fait dans ses mains, il se dit mais en fait je n'ai même pas besoin de ce petit bol, et il s'en débarrasse. Et en fait c'est un peu aussi le symbole de ce qui se passe aujourd'hui. Après cela, on a dans les années 60 aux États-Unis, en plein milieu de la société de consommation, on a un homme qui s'appelle Mies van der Rohe, qui est architecte, fondateur du Bauhaus, qui voit toute l'explosion de la société de consommation avec le pop art, vous savez, Andy Warhol et les boîtes de conserve partout.
Oui.
Et il dit « less is more », ça veut dire « moins égale plus ». Et en fait, il va lancer un mouvement artistique qu'on appelle le minimalisme, qui est un retour à la ligne, un retour à l'essentiel, et qui donne énormément de choses, qui a une influence considérable dans le mouvement de l'art. Donc là, on est dans une phase culturelle.
Mmh.
Et puis, en gros, dans les années 2010, on a le minimalisme qui émerge, mais là, de manière sociale. On peut parler d'une phase sociale où les gens s'emparent de cette philosophie pour essayer de trouver des solutions face au désastre que peut créer la société de consommation dans tous les excès qu'elle peut montrer.
En tout cas, le minimalisme est aujourd'hui indissociable d'une forme de sensibilité écologique. Mais qu'est-ce que le minimalisme apporte surtout à ceux qui y adhèrent ?
Alors, il apporte en fait des solutions face à des considérations pratiques, des difficultés face à trop d'informations, trop d'objets, des sollicitations trop nombreuses et des gens qui se trouvent noyés. Alors, on a Priscilla qui parlait d'un burn-out, mais en fait, on a voilà des gens qui vont être confrontés à des choses comme ça ou un divorce ou un déménagement et qui se disent... qu'est-ce que je fais ? Ils se rendent compte qu'en fait, il y a quelque chose à changer et ils vont trouver dans le minimalisme et dans les questionnements qui se posent une manière de solutionner des choses qui posent problème, en fait. Et de revenir à eux-mêmes. C'est une manière aussi de devenir soi-même.
Parce que lorsqu'on écoute l'essayiste Dominique Leroux, il explique dans l'un de ses ouvrages qu'un foyer américain compte environ 300 000 objets. Et là, on peut se demander qu'est-ce qui est essentiel finalement pour bien vivre.
Ah oui, bah oui, ce chiffre est très frappant.
Hallucinant.
C'est en moyenne dans une maison américaine, il y a 300 000 objets. On n'a évidemment pas besoin de 300 000 objets. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, vivaient avec une peau de bête, des chaussures,
un
arc et des flèches.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin ? Alors, des gens vont dire 33 objets, 100 objets, 1000 objets. Bon, mais là, on est dans des choses qui sont effectivement plus réalistes. Donc oui, on n'a absolument pas besoin de 300 000 objets en permanence autour de soi pour être heureux et vivre dans le luxe.
Emmanuel Veil, vous restez en ligne avec nous. Dans un instant, nous allons accueillir Pierre. Il y a 2 ans, il a fait le pari de vivre avec seulement 43 objets. Mais on continuera à parler avec vous et à échanger et voir combien le fait de réduire ce que l'on possède peut créer un impact social. Et puis aussi, quelle seconde vie on peut donner à tous ces objets dont on souhaite se débarrasser. On se retrouve dans quelques instants avec Pierre.
Et Sandrine, à 42 ans, et témoigne au 39-21. J'étais minimaliste sans le savoir, car je n'aime pas acheter de manière compulsive. J'aime que les objets aient une vraie utilité, que mon achat ait du sens. Je ne suis pas gadget ou objet déco. Ça permet de ne pas encombrer son esprit.
Europe 1.
A-t-on véritablement besoin de tout ce que nous possédons ? Vous êtes devenu minimaliste, vous avez envie de le devenir. Vous nous racontez au 39-21. Votre mode de vie idéal, c'est le minimalisme, moins d'objets, vivre plus simplement. Vous avez arrêté de consommer à outrance. Olivier Delacroix vous attend au 39-21.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Pierre. Bonjour Pierre, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Pierre, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 45 ans, je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors vous Pierre, il y a 2 ans, pour vos 43 ans, vous avez décidé de ne plus vivre qu'avec seulement 43 objets personnels. Qu'est-ce qui a motivé ce pari ?
Oh bah c'était le constat que j'avais beaucoup de choses autour de moi et que j'avais besoin de désencombrer un petit peu mon existence et puis le nombre de choses avec lesquelles je vivais.
Mmh. Est-ce que comme Priscilla, cela partait d'une volonté d'éclaircir votre intérieur, en tout cas de le désengorger, et puis avec 43 objets on peut dire que vous l'avez mis à un état minimaliste, c'était dans le but aussi de vous occuper de votre intérieur ?
Non, enfin oui, mais c'était surtout le but, c'était surtout de vivre avec un impact qui soit le moins mobilisateur de matière possible.
D'accord.
En partant du principe que le nombre de ressources qui sont à notre, enfin en partant de la conscience aiguë que le nombre d'objets qui sont à notre disposition, le nombre de ressources sont limités. Et que si on veut les partager avec le plus grand nombre, il faut en prendre soin et puis veiller chacun à en user le moins possible.
Alors, quels sont ces 43 objets ? Alors, vous ne me les nommez pas tous, bien évidemment, mais comment vous les avez choisis ?
Alors, je les ai choisis d'abord pour faire face à toutes les situations de la vie courante.
Oui.
C'est-à-dire d'abord pouvoir travailler. Donc, ça veut dire pour moi avoir 2 costumes, une cravate, un manteau, enfin, de pouvoir aller à mes rendez-vous professionnels. Ensuite, c'était la vie casual, j'ai envie de dire, pouvoir être habillé avec un set de ville, une table basket, 2 t-shirts. Et puis après, il y a toutes les activités aussi, activités sportives, oui. Activités de plein air, enfin tout ce qui doit être fait en fait. Il fallait que ça puisse englober l'ensemble des pans de la vie.
Et quel type de consommateur vous étiez avant ?
Alors, j'étais déjà pas un gros consommateur,
oui.
Mais par contre, j'accumulais comme beaucoup énormément de choses dans la penderie, énormément d'ustensiles. ou même de vêtements que je mettais que quelques fois par an. J'ai vraiment eu le besoin d'éclaircir tout ça et de me dire, mais après tout, quand je suis face à ma penderie, si toutes mes chemises sont là, parmi les 18, je vais toujours choisir la même, parce qu'il y en a une que je préfère. Et c'est pareil avec mes t-shirts ou avec mes chaussures. Donc je me suis dit, bah, quitte à choisir toujours la même, autant que j'ai plus que celle-là.
Bah, vous avez raison. Et moi, j'étais en train de me dire, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à choisir la même chose. Et donc, du coup, bon, mais j'ai éclairci dernièrement. D'ailleurs, en fait, je voulais vous demander, vous, ce que vous avez fait de tous les objets, tous les vêtements que vous ne souhaitiez pas garder. Est-ce que vous les avez confiés à des associations ou vous les avez revendus? Que s'est-il passé?
Alors, ce qui était, effectivement, il y en a une partie que j'ai donnée à des associations qui les récupèrent.
Oui.
Il y en a une autre que j'ai vendue sur des plateformes, sur Vinted, pour pas le nommer, qui permet, en fait, l'idée c'est de remettre dans le cycle en fait, d'utilisation des vêtements que je portais moins,
oui,
les reconfier à quelqu'un qui lui pourrait les porter. C'est l'idée.
Le fait de vous être affranchi de cette consommation, somme toute assez classique, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, 2 ans après, je m'y suis un petit peu habitué. Je n'imagine évidemment absolument pas de pouvoir revenir en arrière. Mais c'est vrai que sur le coup, ça procure beaucoup de joie en fait.
Oui.
Beaucoup de joie parce qu'il faut être astucieux, il faut choisir ce qu'on va retenir, choisir ce qu'on va écarter, faire le deuil un petit peu de ce qu'on va plus porter en se disant mais est-ce que je pourrais vraiment faire comme ça ? Il y a une phase d'ajustement et puis il y a une phase de grande joie parce qu'en fait on est très léger. On part en vacances très facilement, on fait un sac en 5 minutes, on s'habille le matin sans réfléchir, c'est vraiment plaisant.
J'entends le mot soulagement quand je vous écoute, c'est ça ? Est-ce que vous vous sentez soulagé, comme on se déleste d'un poids, mais dans la tête aussi bien que dans sa maison?
Ouais, soulagement, enfin, c'est plus de la joie paisible de rejoindre un mode de vie qui finalement paraît évident. Enfin, pour peu qu'on ait fait toute cette démarche, paraît évident. Donc c'est plus de l'alignement avec une certaine joie, sachant qu'en plus c'est compatible avec le vivre ensemble de tout le monde autour de nous. Quoi.
Justement, vous dites que le minimalisme s'inscrit dans une démarche globale. Et expliquez-moi.
Alors, globale, parce que dès lors, Olivier, qu'on a pris en compte l'ensemble de la finitude de ses ressources, on va forcément faire attention à beaucoup d'autres choses. Faire attention à ses déchets, faire attention à son alimentation, faire attention à la façon dont on consomme des transports, par exemple. Donc, ça fait 8 ans que j'ai abandonné les 2 voitures, que je fais tous mes trajets en vélo. Forcément, ça englobe des choses de manière plus globale. On n'a plus aucun produit phytosanitaire à la maison. On fait nos propres produits, c'est une démarche globale. Ouais.
Merci Pierre pour votre appel et votre témoignage vraiment très édifiant cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous continuerons à parler minimalisme en accueillant Mélissa. Lorsqu'elle est devenue mère, elle a décidé de désencombrer son intérieur et ne conserver, comme Pierre, que l'essentiel.
Europe 1. Se délester du superflu pour vivre uniquement avec ce qui est essentiel, c'est aussi votre philosophie de vie. On vous écoute cet après-midi au 39-21. Vous avez fait le choix de rester en marge d'une société qui consomme toujours plus, arrêter de posséder pour se simplifier la vie. Est-ce que c'est facile au quotidien? Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 39-21.
Et avant d'accueillir Mélissa dans quelques instants, je crois, Ombline, que vous avez une question à adresser à Emmanuel Veil, notre experte du jour.
Oui, en écoutant Pierre qui vit avec 43 objets, je m'intéressais au minimalisme d'un point de vue des relations personnelles. Pas des relations professionnelles, mais est-ce que justement on réduit le cercle d'amis qu'on a autour de nous quand on est minimaliste? Est-ce que ça va avec la philosophie de vie? Et justement, est-ce qu'on se concentre plus sur la qualité des relations?
Oui, c'est sûr qu'il se passe ce phénomène de manière naturelle. Quand on devient minimaliste, on va moins chercher en fait à avoir 4000 amis comme sur Facebook par exemple, ce qui n'a pas forcément beaucoup de sens, mais à vraiment passer un bon moment. C'est cette idée de ne pas forcément aller consommer quelque chose avec quelqu'un, mais peut-être d'aller se balader tout simplement. Et puis, c'est vraiment l'idée de profiter des choses plutôt que d'accumuler les relations. Essayer de se rapprocher de ses amis et souvent, les vrais amis, on les compte plutôt sur les doigts d'une main ou des deux mains par centaines ou milliers.
Oui, favoriser la qualité et l'épaisseur d'un lien, en fait. Et vous avez raison, en fait, Emmanuel Veil, c'est qu'on a peu d'amis, finalement, de vrais amis. Et que, quelque part, une amitié minimaliste, elle se traduit comme cela. On accueille Mélissa, maintenant, sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, Mélissa.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 37 ans et je vous appelle de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine.
D'accord. Alors, vous dites que vous êtes devenue minimaliste en même temps que vous êtes devenue maman.
Oui, tout à fait.
Comment elle s'est fait, cette prise de conscience ?
Eh bien, en fait, ça a commencé pendant ma grossesse, quand j'ai pris conscience de l'urgence de la situation écologique et des ravages de la surconsommation. Bah, comme si c'était une évidence, j'ai commencé à ouvrir les yeux dans un premier temps pour le bien-être de mon enfant. Et j'ai compris qu'avoir moins, consommer moins, va me permettre d'alléger mon empreinte carbone, de sauver des vies humaines et animales, de générer moins de déchets, moins de pollution, et de libérer les espaces de plus en plus envahissants, comme les installations de stockage.
Oui.
J'ai vu que vraiment, je pouvais participer dans mon petit, avec ma petite pierre à l'édifice pour participer à ça. Et je me suis dit, vaut mieux faire ça que de rester les bras croisés, c'est pour le bien de mon enfant. Voilà.
Et si,
c'est arrivé comme ça.
Et si tout le monde faisait comme vous, je pense que, bien évidemment, la planète irait beaucoup mieux, Mélissa. Oui. Le premier chantier auquel vous vous êtes attaquée, et qui n'est pas des moindres pour une femme, c'est sa garde-robe. Vous vous êtes attaquée, et racontez-moi, ça n'a pas été trop un crève-cœur ?
Oui, en fait, ça a été très difficile au début, parce qu'en fait, toujours quand j'ai eu mon enfant, je me suis rendu compte que j'avais trop de désordre et j'étais envahie de vêtements, parce que vraiment, j'étais une addict au shopping à l'époque. Voilà, je réfléchissais pas, j'achetais, je consommais, et du coup, voilà, ça a envahi mes placards. Et j'ai décidé, de fil en aiguille, j'ai découvert le livre de Marie Kondo et j'ai décidé de réduire, commencer par mon dressing et de créer une garde-robe capsule, d'aller à l'essentiel, de créer une petite collection de classiques qui correspondent à mon style de vie, à ma morphologie, où je me sens bien, et d'éliminer toutes les pièces qui ne servent à rien. Faire en sorte que toutes mes tenues toutes les pièces s'emboîtent entre elles et pour créer des tenues facilement. Et puis ça m'a permis de gagner du temps, d'économiser de l'argent, beaucoup d'argent, puisque je passais mes week-ends à faire
du shopping.
Oui, voilà. Et puis aussi, ça m'a évité le stress du matin de me demander qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais porter, rester 20 minutes devant ma garde-robe avec des tonnes de vêtements, demander qu'est-ce que j'allais porter. Voilà, ça m'a évité tout ce stress et qui n'est pas des moindres.
Vous faisiez référence à la méthode de Marie Kondo lorsque vous avez commencé à désencombrer votre intérieur. En quoi elle consiste, cette méthode ?
Ben en fait, Marie Kondo a une méthode assez radicale, c'est de commencer à trier ses vêtements en mettant tous les vêtements dans un espace, en fait, en regroupant tout ce qu'on a comme vêtements, les sortir des tiroirs, des armoires, des placards, dans une seule pièce pour avoir un espace d'électrochoc, se rendre compte de tout ce qu'on possède, et puis ensuite de commencer à les trier en choisissant les pièces une par une, et choisir celle qui nous fait vibrer, c'est-à-dire celle qui déclenche, qu'on aime, qui nous fait, garder que ce qu'on aime, tout simplement, et éliminer tout le reste.
Vous dites qu'aujourd'hui, c'est plutôt le monde extérieur qui vous empêche d'aller vers la simplification. Pourquoi cela ?
Eh bien, c'est un peu compliqué parce qu'on a toujours notre entourage, la famille, les amis, les cadeaux qui viennent. Et ils n'arrivent pas à comprendre cette démarche. Donc moi, j'essaie d'expliquer avec des mots gentils que je préfère l'expérience au matériel. Je préfère... Pour mon enfant qui reçoit des tonnes de cadeaux, à un moment, j'ai dû dire stop parce que je préfère qu'il aille faire un tour de manège ou faire autre chose que plutôt qu'on lui offre un cadeau il va jouer avec 5 minutes et puis il va se lasser. Et ça a été difficile, mais il faut être diplomate, il faut essayer de leur expliquer ça gentiment, sans les vexer, bien sûr. Mais c'est pas évident. L'entourage, c'est toujours un peu un frein. Et une fois qu'on prend conscience de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, sur notre vie, puisque le minimalisme améliore aussi le quotidien, facilite largement la vie, empêche de stresser, et le fait d'avoir un espace épuré avec uniquement l'essentiel, uniquement ce dont on a besoin, ce qui nous fait vivre, et économiser le temps de l'entretien de cet objet, du stockage pour faire pour vivre des expériences, il n'y a rien de mieux en fait.
Économiser le temps que nous prend le nettoyage, le rangement de tous ces objets, avec cet entourage qui nous regarde comme nous, les personnes qui appliquons cette philosophie qu'est le minimalisme, cet entourage qui nous prend pour des extraterrestres, mais finalement, cet entourage qui est devenu extraterrestre pour les minimalistes que vous êtes, Mélissa, Priscilla, Emmanuel Veil. Et finalement, on se rend compte en vous écoutant combien ces objets nous envahissent la vie et nous la compliquent. Merci mille fois, Mélissa, pour votre témoignage si édifiant cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de votre philosophie de vie, qui est le minimalisme. Et puis, nous échangerons ensemble avec Emmanuelle Veil, qui est journaliste et cofondatrice du magazine en ligne Journal Minimal. On se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Pourquoi vous avez choisi le mode de vie minimaliste ? Quelle est votre façon de vivre et de consommer ? Vous témoignez au 3921. On voudrait savoir pourquoi vous avez choisi le mode de vie minimaliste et vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Mélissa, qui a pour philosophie de vie ce minimalisme déclic qui est venu à la naissance de son enfant. Voilà, c'est d'abord avec sa garde-robe dont elle s'est débarrassée, qu'elle a commencé, et puis ont suivi tous les objets qui, comme elle nous l'expliquait, encombraient son intérieur, parlant du temps que l'on passe à ranger, nettoyer ces objets. Et c'est vrai que quand on y pense, Mélissa, on passe un sacré temps à s'occuper de tous ces objets. Vous avez parlé de votre garde-robe, mais tous ces objets, qu'est-ce que vous en avez fait ?
Alors en fait, j'ai commencé avec la famille, des étudiants entre autres, à qui j'ai donné voilà, tous les gadgets de cuisine, les ustensiles que j'avais en trop, et puis aussi pour faire des dons à des associations. Et en dernière solution, il y a d'abord la vente. On peut vendre aussi les articles qui sont encore en bon état et qui ont une petite valeur monétaire. Oui. Et puis enfin, en dernier lieu, le recyclage, essayer de réparer. On essaie de toutes les méthodes possibles avant d'aller à la poubelle et jeter. Ça, c'est vraiment à éviter au maximum. Donc vraiment, la dernière méthode, c'est de recycler toutes ces choses-là. En fait, le fait de se débarrasser de tous ces objets va non seulement aider d'autres personnes, mais en plus, voilà, ça va libérer de l'espace et faciliter le nettoyage de la maison. Et donc, du coup, ça va devenir plus simple. Et donc, c'est meilleur pour la santé. Moi, qui vivais dans un désordre quotidien, je me suis rendu compte que je déteste faire ma ménage, en fait. Et je déteste ça. Et maintenant que j'ai moins d'objets, le ménage, c'est devenu un jeu d'enfant. Donc, j'ai une maison plus propre. Le ménage a empêché forcément les allergènes, les bactéries de proliférer. Et c'est meilleur aussi pour la santé. Ça a une répercussion sur la santé de mon enfant, forcément. Donc, c'est... tout est bien dedans. Moi, pour moi, en tout cas, je peux vous parler pendant des heures.
Je vois ça, c'est génial.
La voix du mois. Mm-hmm.
Est-ce qu'il vous arrive encore d'acheter alors des objets neufs ou c'est fini, ça ?
Alors, très, très, très rarement. Vraiment, quand il n'y a pas de solution, d'autres alternatives, mais j'achète vraiment, on va dire, à 90% d'occasion. Le neuf, c'est vraiment quand il n'y a pas moyen de trouver ça en seconde main. Mais sinon, oui, on va dire 90%, c'est de l'occasion. Et il y a tout, en fait, le marché regorge d'occasion en bon état, du neuf. Voilà, on a tellement de... Il y a tellement, on va dire que la société est tellement blindée d'affaires, d'objets, les gens n'en peuvent plus, donc ils vendent. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Avant de passer à acheter du neuf, on a quand même de la marge.
On peut réparer beaucoup de choses. Je me tourne vers vous, Emmanuelle Veil. Je rappelle que vous êtes journaliste et cofondatrice du magazine en ligne Le Journal Minimal. Comment déterminer le matériel dont on a vraiment besoin et ne pas céder à l'achat compulsif ? Est-ce que c'est remettre du sens là où il n'y en a carrément plus ?
Oui, c'est exactement ça. C'est en fait identifier vraiment pour soi-même ce dont on a besoin, c'est-à-dire être capable de s'affranchir d'une publicité parce que on passe devant un magasin ou une vitrine et puis on voit quelque chose, on se dit oh, c'est magnifique, j'aimerais bien l'avoir, mais en fait est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et finalement de se poser toujours cette question de ses besoins. Est-ce que ça va aller bien chez moi ? Est-ce que ça va pas me prendre la place ? Et On a aussi, en fait, quand on est minimaliste, une sorte de hiérarchie de questionnement qu'on peut se poser quand on se demande est-ce que je vais acheter ça. Donc, en fait, est-ce que j'ai pas déjà ça, en fait, chez moi ? Ou est-ce que j'ai pas déjà ça mais qui marche plus, mais je peux le réparer ? Est-ce que sinon, j'ai pas quelqu'un à qui je peux emprunter ? Ou est-ce que je pourrais pas troquer une chose dont je me sers plus contre cette chose dont j'ai besoin ? Est-ce que je peux pas sinon aller chiner, peut-être qu'il y a un vide-grenier, des puces pas loin, ou alors est-ce que je peux même peut-être fabriquer cette chose? D'ailleurs, dans le journal Minimal, on a une rubrique qui s'appelle Le Petit Geste, où les gens viennent, ils s'échangent leurs trucs et astuces pour fabriquer des choses. Finalement, si tout ça ne marche pas, bah peut-être que je vais acheter. Oui.
Merci Emmanuel Veil pour ces précisions et pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes journaliste et cofondatrice du magazine en ligne Le Journal Minimal. Et merci aussi à Mélissa, à Priscilla et à Pierre pour leurs témoignages et pour leurs appels. Le minimalisme est une philosophie autant qu'un mode de vie qui permet de basculer vers une consommation plus responsable et respectueuse de l'environnement. Alors si vous souhaitez désencombrer votre espace et entamer un tri, vous pouvez lire les essais de Dominique Leroy ou suivre la méthode de Marie Kondo. Mais n'oubliez pas de donner une seconde vie à vos objets, surtout ceux dont vous ne voulez plus. Vous pouvez les vendre sur des sites comme Vinted ou sur Le Bon Coin, ou donner meubles et vêtements à des associations caritatives comme Emmaüs ou la Croix-Rouge qui en feront un excellent usage. En somme, pensez aux 3 R: réduire, réutiliser et recycler. Vous pouvez en discuter sur les réseaux sociaux.
Et pensez à réagir à nouveau, quand vous le souhaitez, sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 pour continuer de faire vivre cette émission, et également Instagram Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de la jalousie et la gêne que la réussite professionnelle ou personnelle peut parfois inspirer. Alors si votre réussite vous a coupé de certains proches, si certains ont profité de votre réussite ou si vous avez senti qu'elle dérangeait, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier, assisté d'Armel Thiberge à l'éditorial de cette semaine. Merci aussi à l'excellent Boris Paczynski à la réalisation. Et merci à vous, ma chère Ombline, de m'accompagner semaine après semaine.
Avec plaisir.